France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Vaccin trop cher. Le vaccin contre la grippe retenu cette année par le gouvernement n'est pas très efficace. Il y en avait un autre, mais aucun accord n'a pu être trouvé avec le laboratoire. À cause de son prix, explication dans un instant. À suivre encore un accident de car scolaire ce matin en Eure-et-Loire. Une lycéenne a été tuée. Le conducteur impliqué est positif aux stupéfiants et il est placé en garde à vue. Nous sommes sur place. Nous serons aussi aux États-Unis après la collision la nuit dernière à Washington entre un hélicoptère militaire et un avion. Les alertes de la tour de contrôle n'ont pas été entendues. Nous serons également dans les prochaines minutes en Israël. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Huit nouveaux otages ont été libérés ce matin dans des conditions qui font polémique.
Oui, avec ces scènes de chaos, une des huit otages, une jeune femme pétrifiée au milieu d'une foule hostile et entourée d'hommes armés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dénonce des scènes choquantes.
Et nous vous retrouverons en direct de Jérusalem. Un homme qui avait brûlé le Coran il y a 2 ans en Suède, tué par balle hier à Stockholm. Explication à suivre. Et puis on surveille toujours les inondations dans l'ouest, l'île et Vilaine toujours sous les eaux. Bonjour Guillaume Fariol.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes à Redon où l'eau reste à un niveau très élevé.
Oui, Redon toujours suspendu aux caprices du fleuve. La Vilaine monte moins vite que prévu, mais devrait finir par atteindre des niveaux historiques. Les habitants se préparent.
A tout de suite. À partir de 13h30, la chute de Kaboul, été 2021, comme vous ne l'avez jamais vu filmé de l'intérieur par l'ambassadeur de France alors en poste. Le documentaire est diffusé demain soir sur Canal Plus Doc. David Martinon, ancien ambassadeur de France en Afghanistan, est avec nous. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Pourquoi autant d'acharnement contre les vins de Bordeaux, se demande Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. Juste avant 14h, c'est une chanson. Le chanteur Mathieu Bogartz, Michel Jonas et Frédéric Pommier. Et puis l'humoriste Artus, qui met l'argent de son film « Un petit truc en plus » au service des vacances des personnes avec un handicap mental. On salue ce beau geste dans une vingtaine de minutes. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Pourquoi l'épidémie de grippe est-elle aussi meurtrière ? Cette année, l'épidémie est la plus virulente depuis 5 ans. Parmi les éléments d'explication donnés hier par Santé publique France, il y a la faible efficacité du vaccin cette année. Surtout chez les personnes les plus âgées, il ne fonctionne qu'à 35% chez les plus de 65 ans selon les premières données disponibles. Alors pourquoi n'avons-nous pas acheté un vaccin plus efficace ? Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Jérôme.
Le laboratoire Sanofi et le gouvernement n'ont en fait pas trouvé d'accord.
Oui, Sanofi dispose de deux vaccins anti-grippe, le Vaxigrip Tetra et l'Efluelda. D'une année sur l'autre, l'efficacité des vaccins varie parfois du simple au double. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Organisation Mondiale de la Santé est obligée d'anticiper, elle doit donc indiquer aux industriels la souche du virus qui risque de circuler l'année suivante. Et ça ne tombe pas toujours très juste. Pour compenser cette incertitude, une méthode consiste à augmenter les doses d'antigènes administrées afin d'activer une meilleure réponse immunitaire. Ça tombe bien, c'est justement le principe du vaccin Efluelda, le deuxième vaccin anti-grippe de Sanofi, un vaccin donc haute dose, sauf qu'au printemps dernier, le gouvernement et le laboratoire pharmaceutique n'ont pas réussi à s'entendre sur le prix de commercialisation de ce vaccin. En effet, le gouvernement demandait à Sanofi un prix en dessous du prix de revient, impossible donc à accepter pour Sanofi. L'Académie de médecine a très vite regretté cette décision, tout comme la Société française de gériatrie. Car ce qu'il faut bien comprendre, Jérôme, c'est que ce vaccin qui manque à l'appel permet d'éviter davantage d'hospitalisation, notamment chez les personnes âgées les plus touchées par la grippe. C'est donc un gros raté du gouvernement, encore plus incompréhensible quand on sait que la plupart des pays européens disposent de ces deux vaccins cette année et nous non. Qu'en sera-t-il l'année prochaine ? Sanofi vient de déposer un dossier auprès de la Haute Autorité de Santé pour ce même vaccin. On suivra donc avec intérêt les négociations entre l'industriel et le gouvernement.
Merci Victor Dolande. Je précise que la campagne de vaccination contre la grippe a été prolongée. Vous pouvez vous faire vacciner jusqu'au 28 février. De gros moyens de secours sont engagés depuis ce matin près de Châteaudun, dans le sud du département d'Eure-et-Loire. Nous sommes au sud-ouest de Paris après un accident de car scolaire. Un car qui s'est couché sur la route peu avant 8h. Bilan, une lycéenne tuée, une quarantaine de personnes sont blessées. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, s'est rendu sur place il y a quelques minutes.
Je tenais avant tout à rendre hommage à toutes ces personnes et puis avoir une pensée très forte pour la famille de Johanna qui a perdu la vie dans ce terrible accident. Vous dire que c'est un drame qui nous bouleverse toutes les personnes qui ont été sur place ce matin, qui bouleverse également bien sûr ses amis qui étaient présents dans ce car, ses collégiens et ses lycéens qui allaient tout simplement se rendre sur leur lieu de travail et d'études pour aller apprendre un certain nombre de connaissances dans différents domaines et qui resteront probablement à jamais marqués par cette matinée terrible.
Le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Bonjour Cédric Hermel.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes sur place à l'entrée de Châteaudun. On a appris que le conducteur de ce car avait été testé positif aux stupéfiants.
Oui, et selon une source proche de l'enquête, il a été placé en garde à vue. Le car qu'il conduisait est toujours sur les lieux de l'accident, couché dans un ravin, en contrebas d'un virage. La terre est retournée au bord de la route. Le véhicule d'ailleurs est remorqué en ce moment même. Plusieurs voitures de pompiers et de la gendarmerie sont encore sur place. Quelques heures après l'accident qui, vous l'avez dit, a fait un mort, une lycéenne de 15 ans scolarisée en classe de seconde dans un lycée de Châteaudun, selon la région Centre-Val de Loire. Au moins 24 autres jeunes sont légèrement blessés. D'autres ont été transportés à l'hôpital pour des examens complémentaires sur les 35 collégiens et lycéens qui étaient dans ce car. Il s'agit d'un bus de ramassage scolaire géré par la région qui devait desservir 6 établissements scolaires de Châteaudun. Et suite à l'accident, des médiateurs vont être envoyés dans les transports de toute la région Centre-Val de Loire. Et une enquête judiciaire est en cours en ce moment même pour essayer de déterminer les circonstances de cet accident.
Merci Cédric Hermel en direct de Châteaudun. Avec les moyens techniques de Virginie Lorda, la sécurité routière a communiqué ce matin son bilan 2024. La mortalité est restée stable l'an dernier sur les routes de métropole. 3190 morts, plus 4% en revanche outre-mer. La mortalité des cyclistes, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, elle n'a pas évolué. À Washington, les Américains s'interrogent après la collision de la nuit dernière entre un avion de ligne et un hélicoptère. De l'armée. L'avion allait atterrir, il transportait 60 passagers et 4 membres d'équipage. 3 militaires étaient à bord de l'hélicoptère. Les deux appareils se sont abîmés dans le fleuve Potomac. Alors on se demande pourquoi l'un des deux pilotes n'a pas évité l'autre. Ont-ils été prévenus? Se sont-ils vus? Avant cela, les dernières informations. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Vous êtes en direct des États-Unis. Isabelle, à ce stade, il n'y a pas de survivants.
Non, pour l'instant, une vingtaine de corps ont été repêchés et les sauveteurs ont peu d'espoir de retrouver des rescapés. Les recherches sont lentes, difficiles. Il faut plonger dans des eaux troubles. Il fait encore nuit à Washington. Des eaux glacées, 1 à 2 degrés seulement, ce qui réduit aussi considérablement les chances de survie. 300 policiers, pompiers et gardes-côtes sont mobilisés autour des carcasses des deux appareils. Et dans ces échanges avec la tour de contrôle publiée par les médias américains, le pilote de l'hélicoptère explique qu'il a bien vu l'avion de ligne en phase d'atterrissage, qu'il allait tenter de sortir de sa trajectoire. Mais le bombardier d'American Airlines vole à ce moment-là à plus de 230 km/h. La collision a lieu moins de 30 secondes plus tard.
Ce qu'il faut dire aussi, Isabelle, c'est que le ciel de Washington est l'un des plus fréquentés au monde.
Oui, cet aéroport Ronald Reagan, construit à la fin des années 30 et dévolu aux vols régionaux, est particulièrement encombré. C'est aussi pour ça qu'il est considéré comme l'un des plus difficiles du pays. S'y croisent en permanence des appareils militaires et commerciaux, les avions présidentiels aussi. Aujourd'hui, par exemple, 869 vols auraient dû soit y arriver, soit en partir. Alors, comme au niveau national, les effectifs des contrôleurs aériens y ont été récemment renforcés, mais le manque de personnel persiste et les autorités aéronautiques ont beau dire que l'espace aérien américain est l'un des plus sûrs au monde. Il y a 2 ans, une enquête du New York Times révélait que des catastrophes étaient évitées de justesse plusieurs fois par semaine à travers le pays, le plus souvent en raison d'une erreur humaine. Selon l'administration fédérale de l'aviation, 8 collisions ont déjà failli se produire l'an dernier sur cet aéroport Ronald Reagan.
Isabelle Labéry pour ses explications. Concernant les circonstances de cette collision, le président américain Donald Trump a estimé cette nuit que l'accident aurait dû être évité si l'hélicoptère avait manœuvré pour quitter la trajectoire de l'avion. Écoutez l'analyse de Gérard Felzer, ancien commandant de bord, spécialiste d'aéronautique et président d'Aviation sans frontières.
En ce qui concerne l'hélicoptère militaire, la tour de contrôle lui dit « Hélicoptère, est-ce que vous avez en vue l'avion de ligne ?» Apparemment, il n'y a pas eu de réponse. Ça veut dire que soit il n'a pas entendu, soit il n'a pas répété Et donc, le problème, il est parti de là. Il n'a pas vu et il n'a apparemment pas reçu, puisqu'il n'a pas répondu, l'ordre de la tour de contrôle. Ben, ça aboutit au crash. Maintenant, il y a des systèmes anti-collision. Dans les avions, dans tous les avions de ligne, c'est obligatoire maintenant. Dans un rayon de 100 km, vous avez les autres avions. Et quand les trajectoires convergent, eh bien, il y a une alerte qui dit « climb, climb » très fort dans le cockpit, ou « descend, descend », ça veut dire « vous n'avez pas une seconde à perdre parce que ça vous évite le crash ». Et là, la question qui se pose, c'est savoir si ça a marché et si surtout l'hélicoptère en était pourvu.
Gérard Felzer au téléphone de Béatrice Duguet. Le ministre des Affaires étrangères français est en visite en République démocratique du Congo aujourd'hui, quelques jours après la prise de la ville congolaise de Goma dans l'Est par les rebelles soutenus par le Rwanda et deux jours après des violences contre l'ambassade française à Kinshasa. Jean-Noël Barrot s'est entretenu avec le président de RDC, Félix Tshisekedi, qui a promis hier une riposte. Au Proche-Orient, l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste Hamas tient. La troisième vague de libération d'otages a donc débuté. 8 otages, dont 3 Israéliens, ont été libérés ce matin dans plusieurs lieux différents par le Hamas, mais aussi par l'organisation djihad islamique. Les Israéliens vont de leur côté relâcher une centaine de prisonniers palestiniens. Thibault Lefebvre, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Thibault, ces libérations ont donné lieu, comme les dernières, à des mises en scène.
Oui, avec 2 cérémonies et 2 ambiances, Jérôme, complètement différentes. D'un côté, la présentation dans le calme par le Hamas à Jabalia, dans le nord de Gaza, de la dernière soldate otage. Elle s'appelle Agam Berger et elle était détenue jusqu'à ce matin 482 jours dans une mise en scène qui ressemblait aux 2 précédentes vagues de libération. Signature de certificat de fin de captivité et puis un bref salut à la foule sur une estrade avant le départ pour Israël. Et puis de l'autre, 30 km plus au sud, à Khan Younes, des scènes de chaos avec à la baguette le djihad islamique palestinien allié du Hamas qui détenait 7 des 8 otages libérés ce matin. Et cette séquence terrible d'Arbel Yaoud, 29 ans, la jeune femme est tétanisée et elle fend une foule chauffée à blanc entourée de miliciens armés avant de rejoindre le convoi du comité international de la Croix-Rouge internationale. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dénoncé à l'instant des images choquantes. 8 otages ont donc été libérés aujourd'hui. Un homme de 80 ans, Gadi Moses, Arbel Yehoud donc, et 5 ouvriers agricoles thaïlandais. Tous étaient aux mains du djihad islamique. Et puis Agam Berger, détenu jusqu'à ce matin par le Hamas. 110 prisonniers palestiniens doivent être relâchés en échange cet après-midi, dont 32 ont été condamnés à la perpétuité pour des crimes de sang.
Merci Thibault Lefebvre. À l'été 2023, plusieurs manifestations de colère avaient éclaté dans des pays musulmans après le geste d'un réfugié irakien de confession chrétienne. Cet homme, installé en Suède, avait alors publiquement brûlé des exemplaires du Coran. Il avait même été condamné pour cela par la justice suédoise. Eh bien cet homme, Salwan Momika, a été tué par balle hier soir en Suède. À Stockholm, les précisions d'Otilia Ferré.
C'est peu après 23h hier soir que la police a été appelée dans un quartier au sud de Stockholm après que des coups de feu ont été tirés à l'intérieur d'un immeuble. Sur place, Salwan Momika est décédé. L'auteur des autodafés de Coran était en direct sur les réseaux sociaux au moment de la fusillade. Dans une vidéo diffusée par la presse suédoise, on peut apercevoir un policier apparaître dans le cadre du téléphone et arrêter le live TikTok. Une enquête préliminaire pour meurtre a été ouverte et la police a annoncé avoir arrêté 5 personnes dans la nuit avant de les placer en garde à vue. Salwan Momika et son comparse Salwan Najem avaient été renvoyé en procès pour incitation à la haine. Le verdict devait être rendu ce jeudi, il a donc été reporté. Momika était arrivé d'Irak en Suède en 2018 et avait ensuite obtenu un permis de séjour de 3 ans. Il s'était fait connaître du grand public à l'été 2023, lorsqu'à plusieurs reprises, et ce, en plein processus d'adhésion de la Suède à l'OTAN, il a brûlé des Corans en signe de protestation contre l'islam. Des actes qui avaient provoqué de vives réactions bien au-delà des frontières suédoises. Sa tête avait même été mise à prix, mais aucun mobile n'a pour l'heure été mis en avant dans la fusillade qui a coûté la vie à l'auteur des autodafés. À Stockholm, Otilia Ferré, France Inter.
Et le Premier ministre suédois a expliqué il y a quelques minutes qu'il existait un risque de lien entre cet acte, ce meurtre, et une puissance étrangère.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
La situation est inédite. 30 jours après le début de l'année, la France n'a toujours pas adopté son budget pour l'année en cours. Trouver un accord, c'est le but de la réunion qui se déroule en ce moment à l'Assemblée nationale entre 7 députés et 7 sénateurs. C'est la commission mixte paritaire, plus connue sous son petit nom de CMP. Et compte tenu des équilibres dans les deux chambres, la droite y est majoritaire. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Comment avancent les discussions, Laurence ?
Eh bien, à cette heure, on serait autour de l'article 20 sur un texte qui en compte 247. Alors, vraisemblablement, la commission mixte paritaire sera contrainte de se réunir encore demain. Mais ça coince déjà. Le RN est furieux que le gouvernement ait maintenu un mécanisme qui devrait à l'avenir fixer le prix de l'électricité en Europe et avec lequel il est en désaccord. Le député Jean-Philippe Tanguy a assumé d'avoir, ce sont ses termes, secoué le gouvernement en menaçant de voter la censure. Alors, du côté des socialistes, rien ne filtre sur d'éventuelles avancées en faveur notamment du pouvoir d'achat ou de coupes moins sombres dans les budgets de l'écologie, de la culture ou de l'éducation nationale. Mais pour Arthur Delaporte, le porte-parole du groupe socialiste, tant que François Bayrou ne clarifiera pas sa position sur l'immigration, tant qu'il ne condamnera pas les saillies très droitières de son ministre de l'Intérieur, il est sous le coup de la censure.
On ne peut pas avoir un ministre de l'Intérieur qui met en avant des collectifs féministes fascistes. On ne peut pas avoir un gouvernement qui joue avec le feu en disant qu'aujourd'hui, il y aurait potentiellement trop d'étrangers. Voilà, donc nous sommes extrêmement fermes là-dessus et il faut que le Premier ministre se dédise, sinon il devra se démettre.
Propos vif hein, qui témoigne sans doute aussi d'une volonté de peser sur les débats en ce moment au sein de la commission mixte paritaire.
Laurence Perron à l'Assemblée nationale pour Inter avec Benjamin Reyes. En attendant de savoir à quelle sauce elles seront mangées, pour l'instant c'est 2,2 milliards d'euros d'économies qu'il leur est demandé. Les collectivités locales, elles, se serrent la ceinture. Dernier exemple en date, c'est 4 départements de la région Occitanie qui renoncent cette année à leur stand au Salon de l'agriculture. La Haute-Garonne, le Gers, le Lot, le Tarn-et-Garonne font l'impasse. Philippe Dupuy est le président du conseil départemental du Gers.
On renonce tout simplement parce qu'on est face à un contexte économique qui est extrêmement tendu. Notre présence au Salon de l'agriculture, pour nous, c'est une enveloppe à peu près de 200 000 euros. Une somme non négligeable. Historiquement, enfin depuis de nombreuses années maintenant, nous faisions monter les chefs de cuisine pour proposer aux visiteurs des dégustations. C'est une belle vitrine. Nous vendons un petit peu la destination Gers, donc une activité, on va dire, liée au tourisme qu'on promeut au travers de notre présence et des diverses rencontres que nous faisons. Nous avons voulu marquer les difficultés, on va dire, financières au travers de cette absence du stand institutionnel. Pour autant, nous ne serons pas complètement absents du salon puisque nous avons décidé malgré tout de maintenir l'aide que nous apportons aux producteurs. Nous payons 18 000 euros.
Philippe Dupuy au micro d'ici Occitanie. Je reviens à la commission mixte paritaire qui est en cours à l'Assemblée nationale. Parmi les mesures validées ce matin par les parlementaires figure la contribution différentielle sur les hauts revenus. 250 000 euros de revenus par an pour un célibataire, 250 000 euros, voilà, pour que ce soit plus clair, ça c'est pour les célibataires, et 500 000 euros pour un couple. Et une étude aujourd'hui de la Direction Générale des Finances Publiques nous apprend que les Français les plus riches se sont beaucoup enrichis ces 20 dernières années. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Jérôme.
Plus 119% pour ces ménages malgré les crises, c'est 39% en moyenne pour 9 foyers sur 10.
Oui, trois experts de Bercy ont épluché les déclarations d'impôts. Vous savez, la petite case traitement et salaire, c'est puis celles qui suivent. Leur conclusion tient en une phrase. Sur les 20 dernières années, les plus aisés se sont enrichis bien plus vite que la moyenne. Et même s'ils s'acquittent d'une part conséquente d'impôts, on est loin en pourcentage de ce que paient les foyers moyens. Alors de qui parle-t-on ? De 41 000 ménages. Leur revenu a plus que doublé sur 20 ans, en moyenne à plus d'1 million d'euros. En 2022. Ce sont des sportifs de haut niveau, des grands patrons, des banquiers, chirurgiens, dentistes ou avocats. Et si on ajoute les hauts patrimoines immobiliers notamment, 75 000 ménages sont concernés. Ces revenus ou ces patrimoines qui sont bien plus dépendants des crises et fluctuations économiques, ça explique aussi qu'ils aient décollé malgré des moments ponctuels de crise. Cette richesse est essentiellement basée sur des plus-values et dividendes tirés des capitaux, cela même que les oppositions voulaient plus taxer au nom de l'effort budgétaire. Ces propositions ont été rejetées ce matin en commission mixte paritaire. La contribution, vous le disiez, plus restreinte sur les hauts revenus est-elle maintenue en CMP, mais juste pour cette année pour l'instant.
Merci Mathilde de Imi. Et quand on regarde de l'autre côté du spectre, les ménages les plus en difficulté, on sait que les familles monoparentales sont surreprésentées, le taux de pauvreté parmi elles est de 19%. Et bien c'est encore plus dur pour les enfants qui grandissent seuls avec leur mère et qui souvent n'ont aucun contact avec leur père. Ça concerne tout de même un jeune enfant sur quatre dans ces familles. 130 000 enfants de moins de 6 ans au total, c'est ce que nous apprend une étude des ministères sociaux. La sociologue Marie-Clémence Le Pape en est la co-autrice.
En fait, on montre que les enfants qui n'ont plus aucun contact avec leur père, c'est souvent des enfants qui n'avaient pas de contact dans leur premier mois de vie. Donc ça résulte en effet probablement de situations très spécifiques où finalement le père est pas ou peu investi dès le départ dans le projet parental. Cette absence de contact a lieu très précocement dans la vie de l'enfant. Et quand le père a été en contact avec son enfant, le risque de rupture de lien est beaucoup plus faible. Quand le père est pas ou peu impliqué, ça repose aussi sur d'autres formes de solidarité, et notamment les grands-parents, et notamment les grands-mères. Donc en fait, cette prise en charge des enfants, elle repose sur des réseaux de solidarité féminin. Et là, on retrouve des inégalités de genre qu'on a déjà dans le couple. C'est-à-dire que ces enfants, ils sont majoritairement pris en charge par la grand-mère maternelle.
La sociologue Marie-Clémence Le Pape au téléphone de Mathilde Bouquerel. Météo France a encore élargi sa carte de vigilance météo ce matin. Deux départements du sud-est se sont ajoutés, le Var et les Alpes-Maritimes, pour pluie, inondation. Dans le nord-ouest, cinq départements sont toujours en vigilance orange pour le même motif, plus trois en rouge, Morbihan, Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine. Et pas d'accalmie en vue, Guillaume Fariol, on vous retrouve à Redon, au sud-ouest de Rennes, où vous êtes depuis plusieurs jours maintenant, Guillaume. Et la décrue n'est pas pour tout de suite.
Non, le pic n'est pas encore arrivé et se fait attendre depuis de longues heures. Les pompes tournent pour vider les sous-sols et les rez-de-chaussée inondés. Les parpaings s'entassent toujours devant les portes et chacun patiente en guettant l'eau.
C'est vraiment au jour le jour. Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, il y a de l'électricité, super.
Claudie se tient prête à évacuer.
On est suspendu. Ouais. Tout s'arrête autour, on annule les boulots. On attend de voir s'il y a évacuation, pas évacuation. Mon sac d'évacuation est prêt et mon chat attend.
Mais le pic de crue est sans cesse repoussé. Il était attendu la nuit dernière, puis cet après-midi. Ce sera finalement sans doute demain. Attente interminable pour les sinistrés, dont James. Ses affaires réunies dans quelques sacs, il a passé deux nuits dans un gymnase, obligé de quitter sa maison.
Dans la cuisine, j'ai 40 cm et dans le salon, j'ai 2-3 cm. Mais bon, on ne peut pas y rester. Puis les odeurs des égouts, c'est intenable. On ne sait pas quand est-ce que l'eau va repartir. Donc on est dans l'attente, au moins jusqu'à dimanche, parce qu'on n'aura pas d'électricité non plus. Donc au moins jusqu'à dimanche, ça va être une bonne galère.
La Vilaine, à l'heure où je vous parle, pointe à 5,14 m. Selon les prévisions de Vigicru, elle risque de grimper d'encore une bonne vingtaine de centimètres d'ici demain.
Guillaume Fariol en direct de Redon avec les moyens techniques de Florent Layani. La société Nestlé Waters, renvoyée devant la justice, elle sera jugée en mai prochain devant le tribunal correctionnel de Nancy pour avoir abandonné illégalement des déchets et conservé des décharges sauvages, précisément des déchets sous forme de bouteilles d'eau, de verre ou encore de polymère dans les Vosges où Nestlé exploite plusieurs sources d'eau minérale. Le comédien et humoriste Harry Habitant a été visé par la plainte d'une femme pour viol en 2021. La cour d'appel de Paris confirme à l'instant le non-lieu dont il bénéficie. Les poursuites s'arrêtent donc concernant Harry Habitant. Le patron des gendarmes, Hubert Bonneau, lui reconnaît ce matin une erreur collective après l'interpellation d'une élève la semaine dernière dans un collège de Moselle. L'adolescente burkinabé avait ensuite été expulsée vers la Belgique avec sa famille. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a envoyé ces derniers jours une note au recteur pour leur rappeler dans quelles conditions les gendarmes sont autorisés à pénétrer dans un établissement scolaire. Et on en vient donc à ce beau geste de l'humoriste et réalisateur du film Un petit truc en plus, Artus. Une partie de l'argent généré par les recettes du film va aller à une fondation du même nom, la fondation Un petit truc en plus, qui fait aussi appel aux dons pour bâtir des maisons de vacances de rêve pour les personnes qui souffrent de handicap mental. Artus s'associe à la fondation Personnage, créée par l'acteur Lino Ventura et aujourd'hui portée par son petit-fils, Christophe Lasserre Ventura, qui se réjouit de ce partenariat.
C'est un projet qui est assez, je dirais, onirique dans sa conception, avec l'idée d'avoir probablement une maison au bord de la mer, une maison en campagne, une maison à la montagne, dans lequel, bien évidemment, il y aurait des activités adaptées aux personnes en situation de handicap. Bien évidemment, il y a le point commun du handicap mental, mais il y a aussi cette convergence avec le cinéma, qui est un vecteur puissant pour faire évoluer le regard. Nous trouvions avec Artus que c'était une belle façon de continuer à écrire l'histoire de mon grand-père. Aujourd'hui, nous avons déjà 300 000 euros en termes de dotation de la part d'Artus, des distributeurs du film et de ses producteurs. Si on compte sur la générosité, ne serait-ce que des 11 millions de spectateurs du film, voilà, si chacun donnait ne serait-ce que 50 centimes, cela ferait 5,5 millions, ce serait déjà exceptionnel. Et avec cela, nous pourrions commencer à construire une, voire plusieurs maisons.
Christophe Lasserre-Ventura, le président de la Fondation Personnage, au micro de Fanny Humbert. C'est l'un des rares pays au monde qui se passionne de manière absolue pour le handball, alors autant en profiter. C'est la Croatie que l'équipe de France de handball va affronter ce soir en demi-finale du Mondial. Ça se passe à Zagreb à partir de 21h. Battre les Croates chez eux, voilà un énorme challenge pour les joueurs français dans une ambiance surchauffée en perspective que Jean-Pierre Blimeau, qui est notre envoyé sur place à Zagreb, nous propose du mai à quelques heures du coup d'envoi.
Dans les rues de Zagreb, on parle foot, mais aussi handball. Comme Nino, un jeune homme qui regarde tous les matchs à la télévision, il espère que les 16 000 spectateurs de l'Arena Zagreb sauront déstabiliser les Bleus.
Nous aimons tout simplement notre équipe nationale quand elle joue, et c'est très bien comme ça. Peut-être que ça l'aidera à être encore meilleur contre la France. Peut-être qu'on peut faire quelque chose. L'ambiance sera tellement folle et irréelle si on bat la France. C'est tout ce que l'on espère.
Car à Zagreb, lorsque l'équipe nationale joue, c'est de la folie. L'ambiance est d'ailleurs vite retombée après le match Croatie-Hongrie mardi soir. Comme pour les matchs des Bleus des tours précédents, sourit le sélectionneur Guillaume Gilles.
Deux salles, deux ambiances. On peut le dire cette fois-ci, c'est possible que l'ambiance soit hostile.
Il faut dire qu'en Croatie, l'équipe nationale est très soutenue, poursuit l'ancien capitaine des Bleus, Luka Karabatic, d'origine croate par son père.
Voilà un pays de hand qui vibre pour ça. On s'attend à une énorme bataille.
Ici plane également le souvenir d'une finale de championnat du monde que les Français ont remportée en 2009 face à la Croatie. Nedim Remili avait 13 ans à l'époque.
Je me suis même dit à mon père après le match que je vais arrêter l'école et je veux faire du hand. Maintenant, c'est à nous de créer notre histoire pour, j'espère, dans 10-15 ans des petits qui parlent pareil.
Vaincre dans l'adversité pour écrire une nouvelle page d'histoire, voilà la mission des handballeurs français.
En reportage, Jean-Pierre Blimeau. Et puis sur le Vendée Globe, la détermination de Samantha Davis a payé après deux abandons, 2012 et 2020, et une quatrième place, on s'en souvient, en 2008. La navigatrice a franchi la ligne d'arrivée au large des Sables d'Olonne ce matin, 11h15. Elle prend donc la 13e place de cette édition du Vendée Globe 2024-2025. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure de ce 13-14, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, David Martinon est notre invité. Il était l'ambassadeur de France à Kaboul lors de la prise de la capitale d'Afghanistan par les talibans en août 2021. C'est lui qui a organisé l'évacuation des derniers Afghans qui ont pu fuir le pays. 01 45 24 7000 pour vos questions. Il raconte cette histoire dans un documentaire diffusé demain. 13h45, notre feuilleton comment des malades qui souffrent de troubles psy sont pris en charge dans des familles d'accueil. C'est un véritable métier. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Marie-Luce, le vin de Bordeaux se rebiffe.
Oui, il y a en tout cas des voix indépendantes pour dire que ce dénigrement des vins de Bordeaux doit cesser. Cela rassure un peu le milieu, alors que nous allons le voir, la crise est particulièrement aiguë dans ce vignoble.
Et avec vous Frédéric, un chanteur.
Un chanteur que l'on aime beaucoup. Il s'agit de Mathieu Bogart. Il vient de sortir Grand Piano, son nouvel album, un disque que l'on aime beaucoup. Et avec lui, c'est la chanson Les lignes téléphoniques de Michel Jonas que nous écouterons. Une chanson que l'on aime beaucoup.
Ah bah moi je vais la découvrir, donc je vous dirai ça...
Vous la connaissez pas?
Mais non, je la connais pas du tout.
Mais c'est merveilleux les lignes téléphoniques.
Mais j'espère. À tout à l'heure.
Ah au fait maman, merci pour le conseil.
Ah oui, lequel?
Ouvrir l'assurance vie Carac épargne patrimoine.
Ah oui.
En 2024, le fonds euro de la Carac m'a rapporté 3,50%.
Mais oui, la Carac s'occupe bien de nous et depuis longtemps. Et nous avons un conseiller en patrimoine dédié qui change tout.
Et jusqu'au 31 mars, la Carac me donne 50 euros si je verse 2000 euros. Et ça peut aller jusqu'à 1000 euros offerts.
À la Carac, on se bat pour vous. Les taux passés ne préjugent pas des taux à venir. Taux net de frais avant prélèvements sociaux. Offre soumise à condition. Plus d'informations sur carac.fr. Mutuelle soumise au livre 2 du code de la mutualité.
le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
On n'en avait pas vu depuis plusieurs jours. Retour des éclaircies cet après-midi sur le nord-ouest, mais toujours une grande prudence évidemment près des cours d'eau.
Oui, côté ciel, en effet, un peu de répit, mais les cours d'eau sont toujours très élevés. Les crues se poursuivent. Les services de JICRU maintiennent 5 départements en vigilance orange, Somme, Oise, Seine-Maritime, Eure et Sarthe, et 3 en rouge, Ille-et-Vilaine, Morbihan et Loire-Atlantique. Alors sur le nord-ouest, jusqu'à la Garonne et au nord de la Seine, on retrouve quand même quelques éclaircies. Elles sont plus belles de la Bretagne et des Pays de la Loire vers les côtes de la Manche. Il reste quelques pluies quand même au nord de la Seine. Il pleut près des Pyrénées, mais aussi de la Méditerranée jusqu'au nord-est. C'est de la neige en montagne. Et les pluies sont parfois intenses et orageuses. Du Languedoc vers les Cévennes, la Côte d'Azur, Var et Alpes-Maritimes sont placées en vigilance orange pluie. Les températures évoluent peu. 8 à 13 degrés attendus cet après-midi, jusqu'à 17 sur le sud-est. Et puis demain, on aura encore quelques pluies sur un quart sud-est et un petit passage pluvieux sur le nord-ouest, mais sans excès.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour David Martinon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes l'actuel ambassadeur de France en Afrique du Sud et vous avez occupé le même poste entre 2018 et 2021 en Afghanistan, à un moment très particulier jusqu'à la chute de Kaboul, en fait, l'entrée dans la ville des talibans, les fondamentalistes islamistes, la fermeture de l'ambassade de France et l'évacuation de près de 3000 Afghans dont vous avez organisé le départ vers la France. Cette histoire, les derniers mois avant la chute, vous la racontez dans un documentaire Kaboul, qui est diffusé demain soir sur la chaîne Canal Plus Doc. 01 45 24 7000 pour les auditeurs qui veulent vous interpeller, vous interroger et qui passent aussi via l'application France Inter. David Martinon, première question simple, qui filme et pourquoi ?
Alors, qui filme ? L'histoire, c'est que quand je suis parti à Kaboul, un de mes amis d'enfance, Jérôme Pierdet, qui est coproducteur de films, s'est demandé ce que c'était que cette mission. Et il s'est dit que ça pouvait faire un film. Évidemment, c'est difficile de faire un film à distance. Mais le fait est qu'à l'ambassade, j'avais un collaborateur qui était un jeune réalisateur afghan, qui avait été formé par des documentaristes français. Et finalement, je lui ai laissé de la liberté de travailler, de filmer un peu notre vie. Je ne savais pas quel serait le destin de ces images, mais je me disais qu'au pire, ce serait des archives pour l'ambassade. Et puis après, pendant vraiment le pic de la crise, ce sont mes images. C'est-à-dire que moi, j'ai pris des images avec mon téléphone parce que je voulais notarier chaque événement, chaque micro-événement dans la journée.
Documenter ce qui était en train de se passer.
Et documenter. Et puis en plus, je m'en suis servi à certains moments parce que les communications étaient mauvaises. Et par moments, j'avais besoin de faire passer des messages. Par exemple, aux Américains, à Paris, à l'Élysée, au Quai d'Orsay. À mon équipe et parfois à ma famille. Et donc pour ça, les réseaux sociaux, ça permet d'horodater les choses, les événements, et ça permet de délivrer des preuves, parce qu'il n'y a rien de plus évident qu'une vidéo.
Et on a donc dans ce documentaire ces images inédites, dans un contexte à l'époque qui est extrêmement particulier. Le pays est très dangereux, vous êtes sans cesse sur le qui-vive, vous préparez aux attaques. Les attentats peuvent survenir à n'importe quel moment.
Oui, vraiment n'importe quand. Et ils se sont succédés de toutes les formes. Ça pouvait être les mines magnétiques contre des voitures, ça pouvait être des tirs de roquettes qu'on a eus au petit matin. Vous réveillez dans un demi-sommeil, vous pensez que c'est l'orage, et en fait, pas du tout, c'est une attaque de roquettes. Et donc, il faut courir vite avec son gilet pare-balles, se mettre à l'abri. Ça pouvait être des tirs sur les cortèges de nos voitures, et ça pouvait être les attaques complexes, c'est-à-dire la somme de tout ça en un seul événement.
Alors, la menace est permanente, elle plane tout au long du film et elle se rapproche, c'est chronique d'une chute annoncée, finalement, ce documentaire. Compte à rebours, les Américains sont là depuis 20 ans, 2001 après les attentats du 11 septembre, préparés depuis l'Afghanistan par Oussama Ben Laden. Mais Barack Obama a engagé le départ des troupes, Donald Trump a fixé la date, ce sera mai 2021, et vous allez vous préparer, en fait, à la chute de la ville. Vous avez très vite la certitude que sans les Occidentaux et sans les Américains, Kaboul ne tiendra pas longtemps.
Oui, on avait mené une analyse de l'état de l'armée afghane et de l'état de la police afghane. Et concernant ces deux institutions fragiles, on était très vite arrivé à la conclusion qu'ils ne tiendraient pas longtemps sans le soutien de l'ONU. De l'OTAN, pardon. Sans le soutien de l'Occident, des États-Unis et des autres contingents nationaux.
Je crois que le délai le plus court qu'on vous donne, c'est 45 jours.
C'est le délai que je donne moi. Ouais. Quand on me demande, je dis que Kaboul tombera entre 3 mois et 45 jours après le départ du dernier soldat américain, et ce sera 45 jours.
Donc vous préparez l'évacuation de tous ceux qui ont travaillé pour la France en Afghanistan. On voit ces réunions avec les familles.
Oui. 15 mois avant la chute, j'ai l'occasion de revenir en France et c'est ce que je plaide auprès de mes autorités. Je leur dis que le scénario le plus probable, c'est celui d'une victoire des talibans et que dans ces cas-là, il faudra fermer l'ambassade pour des raisons politiques et des raisons de sécurité. Politique, puisqu'on n'a vraiment rien à leur dire. Et de sécurité, parce que c'est pas une armée régulière, c'est une insurrection, on sait pas ce qui peut se passer. Et donc, dans ces cas-là, je veux laisser personne derrière. Et je suis, mes autorités approuvent cette orientation. Et donc, dès mon retour, nous préparons en équipe à la fois la sortie de l'ambassade et l'évacuation de nos employés afghans. Ce qu'au final, nous ferons plusieurs mois avant la chute de Kaboul.
Il y a les évacuations en amont, vous avez prévu ça, vous l'aviez préparé. Et puis il y a l'inattendu, le 15 août 2021, les talibans entrent dans Kaboul, effroi général, et une foule se presse devant l'ambassade. Et dans cette foule, il y a la journaliste Sonia Ghezali.
De plus en plus de personnes arrivent à l'ambassade, et ce sont des binationaux franco-afghans, des personnes qui travaillaient pour des ONG qui n'étaient pas parties avant, mais aussi des Afghans. Des femmes qui possédaient des restaurants ou des cafés à Kaboul, des enseignants, des personnes qui ont eu peur, qui étaient terrorisées et qui juste cherchaient un endroit en fait où se protéger et qui ont pensé à l'ambassade de France.
Sonia Ghezali qui témoigne donc dans ce documentaire David Martinon. Rapidement, ces gens devant l'ambassade sont en danger.
Oui, ils sont en danger. Ils vont l'être d'autant plus que vers 18h50, les talibans entre dans la zone verte, c'est-à-dire la zone sécurisée. L'ambassade de France est absolument contiguë au palais présidentiel et les talibans se ruent vers le palais présidentiel pour le mettre à sac et asseoir leur pouvoir.
Donc ils sont tout près de vous.
Et ils passent vraiment à toute allure, à quelques centimètres de cette foule et ils tirent en l'air, ils tirent ils tirent à la AK-47, ils tirent des grenades et effectivement la foule est vraiment en danger.
À ce moment-là, vous avez déjà quitté l'ambassade, vous êtes à l'aéroport, vous devez prendre la décision. Est-ce qu'il faut faire rentrer cette foule pour la protéger dans l'ambassade ou la laisser à l'extérieur? Vous allez nous expliquer votre choix. D'abord, je voudrais qu'on écoute ce que vous dit à ce moment-là le responsable de la sécurité de l'ambassade, c'est le commandant Martin, qui est membre du RAID.
Moi, je suis pas pour ouvrir la porte. Au niveau sécurité, j'ai pas les moyens de trier correctement, c'est dangereux.
Bah, y a un risque que des terroristes s'engouffrent dans la foule parmi eux.
Il suffit d'une personne infiltrée avec une ceinture explo, vous avez tout de suite une centaine de morts.
Le commandant Martin, il vous dit ça, David Martinon, mais vous prenez la décision d'ouvrir les portes.
Martin a absolument raison. C'est-à-dire qu'effectivement, le risque est très élevé. D'abord qu'il y ait un infiltré, et c'est une question qu'on s'est posée dans les jours qui ont suivi, parce que aux caméras de surveillance, les policiers qui sont à l'ambassade voient des comportements suspects. Et il a raison aussi, parce que c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. On n'avait pas prévu de laisser du monde derrière. L'équipe de policiers qui était encore à l'ambassade à ce moment-là aurait dû partir dans la noria d'hélicoptères juste après la mienne. Et sauf que ces hélicoptères américains, en fait, se font tirer dessus par les talibans à la 12-7, à la AK-47. Et donc, ils sont obligés de rebrousser chemin. Et donc, cette équipe est coincée à l'arrière. Alors, effectivement, je lui donne l'instruction d'ouvrir les portes. Je sais qu'il désapprouve, mais je sais aussi, je comprends qu'il acquiesce, enfin, qu'il se prépare à exécuter mon ordre, parce qu'il a confiance en moi. Et que j'ai confiance en lui. Et c'est une décision... Il n'y a pas de bonnes options dans ces moments-là. Ouais. C'est une mauvaise option aussi, parce que je sais que nous sauvons ces gens-là sur l'instant, mais que je n'ai aucune solution pour les sortir et les ramener à l'aéroport plus tard, parce que la zone est entièrement contrôlée par les talibans à ce moment-là.
C'est ça, peut-être c'est reculer pour mieux sauter, il faut trouver de toute façon une solution. Vous gagnez du temps, mais il faut l'organiser, ce transfert, qui paraît de prime abord très épineux, très compliqué.
Oui, alors c'est ce que raconte le film, c'est-à-dire il y a une première option, qui est celle d'une opération héliportée par les forces spéciales américaines, et qui tombe à l'eau pour des raisons que vous découvrirez, Et finalement, il n'y a que la solution d'une option négociée avec les talibans. Et c'est ce que l'équipe va faire.
Avec un personnage clé qui surgit à ce moment-là, qui n'est absolument pas dans vos radars, absolument pas dans votre carnet d'adresses. C'est un personnage très important du film, Wali Mohammadi, franco-afghan. Il est à ce moment-là en vacances sur place avec sa famille.
Il fallait négocier avec les talibans. Il pouvait négocier avec les talibans. Il y avait des interprètes, il y avait des gens qui parlaient français. Mais parler français, c'est une chose. Comprendre la situation, analyser, trouver des solutions, c'en est une autre.
Vous pouvez nous parler de Wali Mohammadi et l'appui que vous avez trouvé en lui dans ces heures difficiles, parce qu'il va encore servir plus tard et aider beaucoup de gens.
Alors Wali, il habite Lille, Lambersart exactement. Et effectivement, il a voulu revenir comme d'autres, comme d'autres franco-afghans, il a voulu revenir en Afghanistan à ce moment-là, avec la préscience que la République allait tomber et que le moment était crucial s'ils voulaient revoir leur famille, leurs proches, avant que ce ne soit plus possible. Et de fait, alors on le fait entrer, il est dans la foule qu'on fait entrer
avec
dans
sa famille.
Et il se révèle extrêmement important, parce qu'en effet, il parle parfaitement français, comme vous l'entendez, il est français, et il parle le dari, donc le persan, et il va être extrêmement utile aux policiers pour faire l'interface avec les talibans qui tiennent le checkpoint en face, et qui vont être, qu'il va falloir convaincre de laisser partir le cortège.
Il trouve les bons arguments pour que les talibans acceptent d'ouvrir la route vers l'aéroport, et même surprise, il y a un taliban qui veut partir, qui veut monter dans les bus.
Oui, et on se rend compte que c'est un peu la condition, et que s'il n'est pas dans le cortège, les bus n'arriveront pas et n'arriveront pas à l'ambassade et donc l'opération serait impossible, demeurerait impossible. Et donc effectivement, le choix est fait, la décision est prise de l'embarquer et c'était une très bonne décision parce qu'il n'y avait pas le choix.
Vous êtes, vous, à l'aéroport, vous allez suivre tout de même ce transfert à distance. Dans quel état est-ce que vous êtes? On ne va pas tout raconter, mais le convoi a du mal à avancer, il s'arrête, il y a une foule autour. Donc il y a une tension extrême autour de ces bus.
Oui, parce que Wally et les policiers, Martin, JC, négocient avec le groupe taliban le plus proche. Mais les talibans, c'est une insurrection, c'est pas une armée régulière. Donc les commandants ne se parlent pas forcément entre eux. C'est un avantage parce que ça permet de commencer, mais rien n'est assuré pour la suite du trajet. C'est un trajet qui, normalement, on fait en un quart d'heure. Là, ça prendra 1h40. Et il y a 7 checkpoints. Donc le problème se pose à chaque checkpoint. Et le risque, et c'est ce que l'on ressent, parce que le cortège est très vite arrêté par les talibans, c'est celui d'une prise d'otage de masse, en réalité. Et qui nous aurait mis dans une situation absolument inextricable.
Au final, le cortège atteint l'aéroport, il entre dans l'aéroport et toutes ces personnes, des Français mais aussi des Afghans qui souhaitaient quitter leur pays sous contrôle des talibans, finalement ils vont pouvoir partir. Vous restez sur place avec Wali Mohammadi qui va vous assister pendant quelques jours parce que vous allez continuer à faire rentrer des gens de l'extérieur dans l'aéroport. Comment ça se passe à ce moment-là?
Oui, alors une fois que l'équipe a été réunifiée, les forces spéciales sont arrivées, donc deux groupes de combat du commando parachutiste de l'air numéro 10, un détachement d'aviateurs pour coordonner les rotations aériennes. Et effectivement, à ce moment-là, la mission, c'est d'évacuer, de mettre en protection un certain nombre d'Afghans qui sont importants pour nous. Moi, mon premier critère, par exemple, c'est de sortir un certain nombre d'Afghans qui ont rendu d'éminents services à la République, la nôtre, notamment dans des affaires de libération d'otages et notamment de journalistes français. Et donc c'est des gens dont vous n'entendrez jamais parler, mais qu'il était important pour moi de sortir.
Mais il faut aller les chercher dans la foule, physiquement ?
Absolument, il faut entrer en contact avec eux, il faut les guider, parce qu'il y a devant North Gate, qui est la porte principale, il y a déjà 15 000 personnes, donc pour traverser cette foule, il faut parfois plusieurs jours et nuits. Et puis, il faut les identifier à vue, il faut entrer en contact avec eux, et parfois, il faut les sortir de la foule, à la main, comme dans des situations qui sont très dangereuses, parce qu'elle a encore un coup de couteau à être vite arrivé, Et c'est d'ailleurs ce qui se passe à la fin avec l'attentat.
Un attentat kamikaze qui se produit tout près de l'aéroport. Est-ce qu'aujourd'hui, David Martinon, vous avez toujours contact avec ces gens-là? Vous êtes de passage en France. Est-ce que vous les rencontrez, par exemple?
Alors, on est en contact. Le fait est qu'ils sont à peu près partout en France. J'ai fait une conférence à la Sorbonne la semaine dernière et j'ai eu le plaisir de rencontrer deux jeunes femmes qui sont maintenant étudiantes en France et qui sont parties et qu'on a évacuées aussi. Donc j'ai des surprises comme ça quand je suis invité à parler. Souvent, il y a des Afghans qui étaient avec nous à l'aéroport, qu'on a fait sortir, qui se présentent à moi, et c'est toujours un vrai plaisir.
D'un mot, comment est-ce que vous voyez la situation du pays qui est sous la coupe des talibans et de plus en plus pressante? Les femmes, par exemple, n'ont pas le droit d'étudier, mais elles essayent de résister comme elles le peuvent.
La situation est terrible, en particulier pour les femmes. En réalité, on a utilisé le terme d'apartheid de genre en ce qui les concerne en Afghanistan, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un apartheid, c'est un esclavage. Les femmes sont des esclaves domestiques. Elles sont, pardon pour l'expression, elles sont à la fois des ventres et des esclaves domestiques. Ce qui est terrible, c'est que donc elles n'existent plus du tout dans l'espace public. Même quand elles sont chez elles, et elles ne peuvent pas être dans une pièce dont une fenêtre donne sur l'extérieur. Mais ce qui est le pire de tout, c'est que les talibans, en leur interdisant l'accès aux études médicales, donc médecins, sages-femmes, infirmières, rend impossible de soigner les femmes, parce qu'en Afghanistan, seules les femmes peuvent soigner les femmes. Et s'il n'y a plus de femmes dans les professions médicales, alors vous imaginez l'impact que ça peut avoir. Et en l'occurrence, nous savons déjà que la mortalité maternelle est en explosion.
Donc c'est une condamnation à mort, finalement, cette décision. Merci David Martinon d'avoir accepté notre invitation.
Merci de votre invitation.
Le documentaire Kaboul Chaos, diffusé demain soir sur la chaîne Canal Plus Doc, 13h45 sur Inter. Notre feuilleton, grâce à notre reporter Lise Roseveil, nous retrouvons toute cette semaine notre famille de Neuvillé-sur-Moselle, en Lorraine. Isabelle et Franck, tous les deux accueillants familial thérapeutique. C'est-à-dire qu'ils vivent chez eux avec trois patients, Philippe, Franck et Marcel, qui eux sont atteints de schizophrénie. Alors c'est un métier rémunéré, ils sont employés par le centre psychothérapeutique de Nancy. Et aujourd'hui, l'équipe médicale vient justement à leur rencontre, comme elle le fait régulièrement.
Et au niveau du moral, ça va comment ?
Ça va bien.
Ça va
c'est
bien.
En bonne santé.
Oui.
Bientôt, j'aurai la prise de sang à faire.
Oui, d'accord. Donc là, vous avez le suivi avec le médecin de famille. Puis vous avez votre vie ici depuis 11 ans.
Et comme médecin, j'ai plus de psy.
On voit qu'avec l'AFT, vous avez moins besoin de voir le psychiatre.
Hein. Ah oui.
Je suis le docteur David Masson, je suis psychiatre d'adultes sur le centre psychothérapeutique de Nancy et je suis le responsable du département de réhabilitation psychosociale dans lequel on trouve l'accueil familial thérapeutique.
Qu'est-ce que vous allez regarder là quand vous venez comme ça dans une famille d'accueil thérapeutique? Vous allez échanger plutôt sur le suivi médical?
Effectivement, il y a la question du suivi médical et comment vont les personnes d'un point de vue psychiatrique de manière générale. Mais si elles ont été orientées en accueil familial thérapeutique, c'est que la situation clinique fait qu'il y a une possibilité de vivre, en tout cas dans un milieu démédicalisé. Et un des aspects principaux autour de l'AFT, c'est de moins apporter de soins médicaux, en tout cas qu'ils soient toujours là, mais qu'ils ne sont plus en premier plan. Mais par contre, de pouvoir à la fois définir un projet de vie, gagner en confiance en soi, gagner en qualité de vie de manière générale.
Bâtiment, les chambres d'isolement. Les chambres d'isolement, ouais.
Philippe n'a plus été hospitalisé depuis 11 ans et on voit dans ce qu'il rapporte une qualité de vie tout à fait satisfaisante. Il y a aussi un aspect aussi des conduites addictives qui n'existent plus et puis un sens trouvé à sa vie extrêmement agréable à voir et l'environnement de l'AFT permet de l'obtenir.
Alors, un médecin va trouver pour soulager le mal et ça fait mal.
On a un bon café et un bon petit chocolat, généralement, les douleurs, ça s'éténue.
Vous, par exemple, Isabelle, vous allez demander des conseils à l'équipe médicale, par exemple?
En permanence, en fait. À tout moment de la journée, l'équipe peut intervenir à nos côtés pour trouver une solution, soit par leur présence physique ou téléphonique, mais on n'est pas seul.
Il y a un an, Marcel, bon voilà, a fait une petite crise et puis on a appelé justement l'équipe. Il voulait plus s'habiller, il était dans sa chambre, il était délirant. Puis en fait, il a été hospitalisé, quoi. Voilà, il y a toujours quelqu'un. On a un numéro d'appel d'urgence que si c'est le soir ou le week-end, on appelle et on a toujours quelqu'un au bout du fil, voilà, qui nous dit la marche à suivre.
Bah oui, vous faites tout pour prendre soin de votre santé, vous, Marcel.
Je comprends la morale, la psychologie, les larmes, la peur, l'angoisse, les envies, le besoin.
Vous avez envie de vous en sortir.
C'est pas évident, tu es
Je suis Sophie Guesnay, je suis ergothérapeute de formation et je suis coordinatrice de l'accueil familial thérapeutique depuis peu. Je suis arrivée au mois d'août. On peut intervenir dans les moments plus compliqués, mais on intervient aussi, c'est pour ça qu'on intervient aussi une fois par mois, pour échanger sur ce qui peut annoncer une crise, avec des guillemets, un moment de moins bien, identifier les activités qui sont plaisantes, qui vont apaiser la personne. C'est un travail sur le long terme. Isabelle disait, on est présent s'il y a besoin, mais on essaye aussi d'identifier avant ce qui pourrait intervenir pour apaiser et pour prévenir les difficultés. Je vois que Marcel, il est souriant aujourd'hui. Hein. C'est un bonjour. Je l'ai vu moins souriant que ça.
Une semaine dans leur vie. Cinquième et dernier épisode demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France à 13h50. Le jeudi, nous sommes avec notre spécialiste gastronomie, Marie-Luce Ribaud, du journal Sud-Ouest. Marie-Luce, les critiques, parfois justifiées, contre les vins de Bordeaux durent depuis des années, mais un vent de révolte se lève.
En plein marasme, Bordeaux a du mal à voir le bout du tunnel. Mais il y a pourtant en effet quelques signes d'espoir. Revenons d'abord sur cette crise. Elle est profonde et ses conséquences tragiques pour des centaines de vignerons. Depuis un an, le paysage autour de Bordeaux s'est mité. 8000 hectares de vignes ont été arrachés. 6000 devraient encore disparaître. C'est l'unique solution pour endiguer la surproduction. Mais paradoxalement, Jérôme, cette crise redonne à l'appellation un peu de l'humanité qui lui faisait défaut. Il aura fallu cette traumatisante campagne d'arrachage pour comprendre que le Châtelain et son Grand Cru ne représentent pas l'essentiel de Bordeaux, souligne César Compadre, mon collègue spécialisé à Sud-Ouest. Il faut savoir que le prix moyen d'une bouteille en grande surface est de 6 euros et que les Grands Crus, c'est 5% du volume. Car oui, ce sont ces Grands Crus devenus spéculatifs, phénomène d'ailleurs partagé avec la Bourgogne, qui ont emporté toute l'appellation dans une image de vin cher. Tout le monde, certains plus que d'autres, a bien sûr profité d'un âge d'or, mais il est désormais révolu.
Mais ce dénigrement, on parle parfois de Bordeaux bashing, a d'autres racines.
Notamment la dénonciation qui s'est focalisée sur ce vignoble de l'utilisation de produits phytosanitaires. Bordeaux a depuis réagi et passé à 24% en bio pour une moyenne nationale à 21,7%. Mais ce qui mine dans la région, c'est que les efforts semblent inaudibles. Même à Bordeaux, des acteurs du tourisme regrettent que des restaurateurs et des bars ne jouent pas le jeu du local. Peut-on imaginer une chose pareille en Corse, s'interroge l'un d'eux. Ce printemps, l'interprofession et la ville lancent une opération pour que Bordeaux redevienne au moins prophète en son pays.
Et certaines voix indépendantes disent « ça suffit ».
Voici Antoine Pétrus, l'un des sommeliers les plus en vue et les plus éclectiques. Il a publié sur son réseau social un « j'accuse » rempli de colère. Tout le monde ou presque se tait, nous dit-il. Je les entends en coulisses, mes collègues cavistes ou sommeliers, mépriser les Bordeaux. Mais je ne les vois jamais dans les vignes venir goûter des vins qui sont pourtant de plus en plus pointus, techniques, surprenants. Ils sont ignorants et ça me met en rage. Il n'est pas seul. Il y a deux mois sortait un livre efficacement nommé en défense des vins de Bordeaux. À l'origine de cet ouvrage, écrit comme un pamphlet pré-révolutionnaire, un romancier éditeur, Jean Le Gall, inconnu dans le milieu, méthodiquement, il pilonne ses serveurs qui lui font la grimace dès qu'il demande un Bordeaux blanc tout en l'invitant à découvrir des vignobles sympas dont il ignorait jusqu'ici l'existence. C'est drôle et cruel.
Que manger, Marie-Luce, avec un vin de Bordeaux que l'on consommera évidemment avec modération?
Ben une entrecôte sauce bordelaise, évidemment. Cette sauce, elle est tirée de la récente encyclopédie culinaire des territoires de France, signée du grand chef Jean-François Piège, un formidable livre fleuve de 1800 recettes. Dans une sauteuse, faites réduire presque jusqu'au bout trois échalotes ciselées, une feuille de laurier, un brin de thym dans 30 centilitres de vin,
rouge de Bordeaux, évidemment. Versez 40 centilitres d'un fond de veau lié. Faites réduire pour obtenir une texture nappante. Hors du feu, montez cette sauce avec 40 g de beurre fondu. Ajoutez 50 g de moelle de bœuf découpée en petits cubes, ébouillantée et bien essorée. Faites fondre tout ceci dans un bain-marie assaisonné. Servez avec une entrecôte grillée au sarment de vigne du Médoc ou de Saint-Émilion. C'est un délice.
Merci Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest, en direct de Bordeaux, évidemment, de C'est la France à C'est une chanson avec vous, Frédéric Pommier, aujourd'hui le chanteur Mathieu Bogart.
Il vient de faire paraître son 9e album, Grand Piano. Très très chouette album qu'il donnera à entendre en concert demain soir à la Manufacture Chanson, puis le 7 mars au Théâtre de la Ville à Paris. Et c'est d'un titre de Michel Jonas qu'il a choisi de me parler. Les lignes téléphoniques.
Depuis que je sais que je vais avoir cette entrevue, je me pose la question, mais pourquoi cette chanson plutôt qu'une autre ? Et je m'aperçois que quand j'aime une chanson, je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi. Si jamais j'avais un compteur en moi qui mesurait les sensations que me procure une chanson, ben celle-ci, en tout cas aujourd'hui, je pense, est celle qui atteindrait le plus haut score. Et c'est celle qui me fait vibrer, qui m'émeut énormément. Et j'ai souvent pleuré sur cette chanson. J'ai voulu quand même l'écouter avant de venir pour être sûr que je l'aimais toujours, parce que ça faisait un certain temps que je l'avais pas écouté. Et dès que ça commence, je sens une montée, quoi. C'est vraiment fou. Et je pleure sur pas beaucoup de chansons. Sur la route qui descend vers la ville, je vois un gosse qui me fait des signes. C'est mon môme qui m'appelle encore une dernière fois papa. Et je regarde courir les lignes téléphoniques qui descendent. Je peux même pas continuer, quoi. C'est vraiment, ça me touche à fond. Je sais pas pourquoi. J'ai fait mon devoir de père, je crois. Il aime les champs et les vignes. Je peux pas. C'est fou, hein ?
Quand vous entendez cette chanson, est-ce que c'est vous que vous voyez ? Vous, enfant, ou vous, papa ?
Bah, c'est les deux, vraiment. En fait, j'étais pas papa quand j'ai découvert cette chanson, je le suis aujourd'hui. Mais ça me touche énormément. Alors, est-ce que ça fait vibrer le rapport que j'ai à mon père ou le rapport que moi j'ai à mon fils ? Peut-être, je sais pas. En tout cas, je trouve ça vraiment beau.
Sur la route qui descend vers la ville, je vois un gosse qui me fait des signes. C'est mon môme qui m'appelle encore une dernière fois papa. Et je regarde courir les lignes téléphoniques qui descendent.
Cette chanson de Michel Jonas est sortie en 1985, Frédéric, sur l'album Uni vers l'Uni.
Une chanson dans laquelle un père regarde s'éloigner son fils. Dès lors, j'ai souhaité savoir quelle relation Mathieu Bogart entretenait avec son fils et puis avec son père quand il était enfant.
J'ai un père très 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 froid. Donc j'ai aucun souvenir d'avoir été dans les bras de mon père ou d'avoir quelques contacts charnels avec lui. Donc j'étais un enfant plutôt admiratif mais un peu intimidé et pas vraiment en confiance avec lui. Voilà, c'est ça.
Un père un peu impressionnant.
Impressionnant et qui s'écoute parler, qui a des choses très intéressantes à dire et qui a toujours des choses intéressantes à dire et pas tendre pour un sou.
Et vous, vous êtes un papa différent avec votre fils ?
Alors moi, je suis plus tendre, je suis à 1000 bisous pour l'instant. Je suis resté sur ce quota-là et je compte pas le baisser. C'est vrai que je suis très très câlin avec mon fils. Est-ce que c'est mieux, pas mieux ? Je suis pas en train de te dire que je suis un meilleur père que mon père ne l'était. Et puis c'est pas un choix que j'ai fait conscient en me disant oui, il faut absolument que je sois câlin parce que mon père ne l'était pas. C'est très instinctif. Enfin, c'est très naturel, quoi.
Faites pas revenir ces messages jusqu'à moi, vous que le destin désire, comme étant le lien unique entre lui et moi. Faites courir sa voix dans vos lignes téléphoniques qui descend.
Et votre père, il aime bien ce que vous faites comme musique ?
Non. Pourtant, c'est quelqu'un de vraiment mélomane et qui a très bon goût et qui écoute 3 heures de musique par jour et qui me fait encore découvrir des trucs. Mais foncièrement, je pense qu'il est insensible. Il m'a jamais parlé d'un texte que j'ai écrit. Donc quand il me fait des remarques, c'est sur des trucs qui sont complètement secondaires. Mais bon, je m'y suis fait et puis j'ai d'autres fans.
Vous y êtes fait vraiment ?
Waouh ! Vraiment, non. Mais je m'y suis fait en partie. Voilà.
Il y a peut-être un peu de cette histoire quand même dans votre affection pour cette chanson qui vous bouleverse autant.
Sans aucun doute. Vous me réveillez en pleine nuit, vous me faites écouter cette chanson. L'image qui me vient, c'est quand même lui et moi sur une route avec des lignes téléphoniques. Et puis le fils comme ça qui descend.
Et qui s'en va.
Voilà. Sauf que mon père me dirait jamais ça.
Donc cette chanson, finalement, ce qu'elle raconte, c'est une relation entre un père et un fils, qui est cette relation qui peut-être vous a manqué.
En tout cas, voilà, ce lien-là qui se dessine dans cette chanson, c'est pas le lien que j'ai eu, c'est plutôt le lien dont j'ai rêvé.
C'est mon monde qui m'appelle encore une dernière fois, papa. Je regarde courir les lignes téléphoniques qui descendent.
Michel Jonas, les lignes téléphoniques, c'était donc Frédéric. Le choix et les confidences de Mathieu Bogaerts.
Mathieu Bogaerts, dont je vous conseille le nouvel album Grand Piano.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
De quoi parlons-nous aujourd'hui ?
D'un précurseur de l'écologie, Claude Lévi-Strauss.
A tout de suite.